What are they? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en stock sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertion, mais pour les nouveaux arrivés, en fait, Pop en stock est l'extension de la revue numérique en ligne du laboratoire de recherche à l'UQAM sur la culture populaire. On travaille en joyeuse bande à décortiquer et analyser, réinterpréter la culture populaire sous ses multiples facettes. Et aujourd'hui, nous vous présentons, en fait, c'est un épisode hors série, où nous vous présentons un entretien entre le théoricien Marc Angenoux et Antonio Dominguez-Lieva, qui est le cofondateur du laboratoire de recherche Pop en stock. Marc Angenoux est historien des idées et théoricien de la rhétorique. Il est docteur en philosophie et lettres à l'Université libre de Bruxelles. Il est depuis 1967 professeur à l'Université McGill de Montréal et depuis 2013 professeur émérite. Il est l'auteur de plus de 175 livres, cahiers de recherche et contributions à des ouvrages collectifs. Il a été nommé en 2001 à la chaire de recherche le James McGill Professorship d'études du discours social. Il est membre de l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines, une des composantes de la Société royale du Canada. Il est le seul prof de lettres à avoir jamais reçu le prix du Québec Léon Guérin en 2005 pour l'ensemble de son œuvre. Il était le titulaire en 2012-2013 de la chaire Chaim Perelman de rhétorique et d'histoire des idées à l'Université libre de Bruxelles. Marc Angenoux a aussi publié un article sur notre portail que vous pouvez aller lire immédiatement. L'article s'intitule « Pourquoi l'Internet est-il le vecteur d'idées douteuses et fausses? » Donc, sans plus tarder, je vous présente cet entretien entre les deux chercheurs. Ce qu'on vous présente actuellement est la première partie de deux. Vous allez avoir la seconde partie la semaine prochaine pour compléter le tout. Donc, sans plus tarder, je vous présente cet entretien entre les deux hommes où ils parlent.
Donc, moi, j'ai intitulé ça, donc comme je t'avais envoyé, Marc Angenoux vers un demi-siècle d'études en culture populaire, parce que c'est vrai qu'il y a, depuis l'ouvrage initial sur le roman populaire en 1975, avec la parution en 2013 de ton livre « Les dehors de la littérature », il y a vraiment une impression comme ça de pratiquement un demi-siècle consacré à des études qui ont très largement à la culture populaire. Il est vrai que en général, on s'intéresse beaucoup à tout l'aspect de ton œuvre autour du discours social et la sociocritique, etc. Mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point la culture populaire est présente depuis les débuts et trace comme une sorte de fil d'Ariane dans ton œuvre.
Oui, alors je suis bien d'accord, s'il n'y a rien de plus douloureux quand on est devenu un vieux monsieur que de se rappeler les moments de sa jeunesse et d'essayer de comprendre ce qu'au départ je voulais faire en travaillant sur le roman populaire. On peut dire d'abord, on commencerait par un hommage au Québec, ou plutôt au Québec de ce temps-là, c'est-à-dire c'est une société qui sortait, et ça se sentait encore, de la grande noirceur, tout était à faire, et surtout l'institution vous laissait la bride sur le dos. Ça c'était agréable, j'avais 25 ans, j'étais nommé prof à McGill, et je m'intéressais, ce qui est peut-être normal, j'avais le sentiment que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, donc je me suis mis à aller, j'avais fait une thèse sur le surréalisme, je n'avais pas l'intention d'être bloqué dans l'enseignement de la poésie moderne, et je me suis dit que, je ne sais même plus pourquoi, que j'allais essayer de travailler sur le roman populaire, et à l'époque il n'y avait même pas de conseil de recherche, il y avait le Conseil des arts du Canada, ils m'ont donné des sous pour acheter en Europe, sur les quais à Paris, des collections de romans populaires du 19e siècle.
Ça se trouvait encore, c'est ça qui est fascinant.
Ça se trouvait pour une ou deux piastres, évidemment, c'était extrêmement facile.
Il y avait
facile.
Encore des éditions de Fantomas.
Et on trouvait j'ai trouvé tous les vieux Fantomas chez un petit marchand de puces à Liège. C'est un ouvrier avec consciencieusement relié pour lui-même la totalité des Fantomas tels qu'ils étaient parus chez Fayard ou Talandier avant 14, et puis Judex, et puis tous les Zygomar au service de l'Allemagne, enfin toute cette tradition du roman qu'on appelait à 65 centimes parce qu'il y avait le chiffre 65 centimes sur la couverture qui était tiré sur rotative avec de très mauvais papier, mais en fait qui était en effet jusqu'à 14 le roman pas cher, le roman populaire dans lequel il y avait Chaste et flétrie de Pierre de Courcelles, Violé le soir de ses noces, Un lys au ruisseau, enfin les romans du martyr féminin, etc. Et je me suis mis à essayer de me demander, qui est une question, je n'avais pas la formation, mais c'est une question qui allait s'appeler un jour histoire culturelle, celle que pratiquerait Pascal Horry et d'autres. C'est-à-dire, j'ai essayé de regarder qu'est-ce que ça pouvait apprendre, et au fond, qu'est-ce que ça disait que la littérature canonique ou canonisée ne disait pas. Et oui, j'ai écrit ce premier petit livre qui ne m'a pas fait que des amis dans un département de littérature. Ensuite, de quoi je suis allé un peu à la dérive dans des tas de sujets.
Rétrospectivement, c'est intéressant que tu sois passé du surréalisme au roman populaire, parce que les chapitres, enfin les cas qui t'intéressent beaucoup sont tels que Fantomas, étaient des choses qui avaient énormément inspiré les surréalistes aussi. Donc quelque part, il n'y avait pas non plus de trahison par rapport à ça. C'est précisément ce que tu viens de dire, de qu'est-ce que ça apportait que la littérature canonique n'apportait pas. Je pense que c'est ce que les surréalistes avaient recherché précisément.
Oui. C'est vrai que les surréalistes ont adoré ce que Rimbaud appelait les livres érotiques sans orthographe. Ils avaient beaucoup adoré Fantomas, mais par contre, les mystères de Paris de Eugène Sue avaient attiré à l'époque l'attention de quelqu'un qui était totalement inconnu, un nommé Karl Marx, qui fait un long chapitre sur le mystère de Paris dans la Sainte Famille. Donc il y avait de quoi faire, et effectivement, en prenant ce travelling arrière sur des états de société différents, de ce qu'on appellerait des mentalités, je me suis mis à aller voir toute une série de choses, et au bout de quelques années, je m'étais mis à dos, au fond, l'institution, parce que ce que je faisais n'avait de sens dans aucun... Bon, par exemple, le livre suivant, je suis passé au 14e, 15e siècle, avec les champions des femmes. Là aussi, il s'agissait de trouver quelque chose qui, à l'époque, en tout cas, après ça va prendre, était totalement négligé. C'est des traités, les uns en latin, les autres en français, qui, jusqu'à la Révolution française, visent à démontrer la supériorité des femmes. Mmh. Et ils le démontrent avec des arguments auxquels on ne penserait pas. Je vais essayer de vous démontrer en une seconde pourquoi les femmes sont supérieures aux hommes. Par exemple, Adam est fait de la boue de la terre. Ève est faite d'une côte d'Adam.
Or, plus noble.
Il est évident qu'une côte, c'est plutôt mieux que la boue de la terre, et donc les femmes sont supérieures aux hommes. Ça, c'est comment on raisonne au XVe siècle, et ça m'avait vraiment étonné, et jusqu'à Olympe de Gouges, jusqu'à Mary Wollstonecraft, les premières qui posent la question concrète des droits de la femme, pendant 3 ou 4 siècles, toute une série de penseurs galants ont essayé de démontrer la notion d'égalité leur échappe totalement, mais l'idée d'une supériorité leur paraissait très intéressante.
Puis c'est très intéressant parce que là apparaît déjà la rhétorique, enfin c'était déjà dans ta thèse sur le surréalisme et la rhétorique, mais là ce qui est intéressant, parce qu'au fond, les cours d'amour, etc., c'était beaucoup des exercices rhétoriques où il fallait prendre et défendre un peu.
Voilà, c'est ça. Là, on peut reconnecter avec cette idée non seulement de la rhétorique, mais du caractère historiquement variable de ce qui est convaincant ou persuasible. C'est ça que j'ai commencé à sentir. Vous voyez que l'argument sur la supériorité des femmes, quoique très sympathique, ne passerait pas vraiment à l'UQAM aujourd'hui. Hein. On peut voir que ce qui est convaincant dans une société est extrêmement variable, que si ce qui convainquait un militant stalinien il y a un demi-siècle paraît totalement inintelligible, et dès que j'ai pris le recul du temps. Donc j'ai en effet retransformé l'idée de rhétorique, qui était une science intemporelle, en une science historique et sociale. Il y a dans les sociétés des manières de raisonner, de persuader, qui ne sont pas les mêmes chez les uns et les autres. Bon, ça a été à un moment donné mes recherches, et puis je les ai accumulées dans tous les sens, et puis on a vu ce qu'on a vu.
Ouais. Et c'était en germe aussi, finalement, la façon dont tu analyses les mystères de Paris, mais aussi ce sous-genre finalement assez étonnant du roman revanchard. Donc là aussi, il y avait quelque chose à l'intérieur de la grande diffusion de littérature populaire. Il y avait déjà le poids important des idéologies.
Alors, bon, voilà, c'est ça. Mais je pense que dans inconsciemment, je ne savais pas où j'allais, mais je collais des tas de morceaux ensemble. Enfin, c'est la vieille histoire des trois aveugles et de l'éléphant. Je tâtonnais autour de quelque chose que je ne pouvais pas identifier, dans lequel, en effet, de la guerre perdue par la France contre la Prusse en 1870 à la guerre de 14, il y a une énorme production dans laquelle de chastes alsaciennes luttent contre d'horribles Prussiens avec des casques à pointe, etc. Donc cette production énorme qui constitue un grand moment de l'histoire de France. Je voudrais du reste rajouter que la France n'est pas mon pays, c'est pas mon pays d'origine, et ça a été un peu toute ma vie mon objet de recherche, c'est-à-dire quelque chose qui était suffisamment étranger, exotique pour moi, pour me faire poser certaines questions que peut-être les penseurs indigènes ne se posaient pas. Donc c'est ça, j'ai pas mal travaillé sur des choses qui émergeaient sous le nom de analyse du discours, sous le nom de idéologie, critique des idéologies, sous le nom de rhétorique de l'argumentation, et qui au fond montraient que les études littéraires étaient un petit secteur. Un secteur certainement significatif à de certains moments, mais qui n'a de sens que si on le connecte à la totalité. Bon, c'était, oui, la totalité de ce qui se dit, de ce qui se diffuse, de ce qui paraît crédible, intéressant, passionnant, mobilisateur, etc., dans un état de société.
Tu étais à l'avant-garde, finalement, de ce nouveau regard, puisqu'au même moment, précisément sur les mystères de Paris, il y a Umberto Eco qui écrivait sur la réitération, puis il essayait d'expliquer en quoi le manichéisme n'était pas nécessairement... que c'était à la fois un procédé rhétorique d'adhésion du lecteur, et que c'était, selon lui, peut-être plus important cet aspect d'efficacité narrative que l'idéologie comme telle.
Oui. Quiconque essaye de raconter sa vie devrait dire surtout qu'est-ce qui vous a intéressé. Et à certains moments, effectivement, l'Opera Aperta, les premiers grands essais d'Umberto Eco m'apprenaient des choses, notamment sur l'herméneutique, sur l'interprétation, etc. Y a toujours énormément, il y avait vraiment énormément à apprendre, et j'avais constamment le sentiment de me balader dans des secteurs négligés par la recherche, pour deux raisons. Parce que les historiens de l'époque étaient très peu sensibles au texte, ce qu'on appelait le symbolique. Les historiens du fascisme, par exemple, du fascisme italien, commençaient à s'intéresser à la chose vers 1920, quand les fasci di combattimento se mettent à créer la terreur en Italie, mais ils ne voient pas que depuis 30 ou 40 ans, une série d'idéologues, d'écrivains, etc., ont préparé le terrain. Ça, c'est le problème de l'idéologie, c'est que l'idéologie, généralement, est un truc qui a une ombre portée. Il faut remonter d'un demi-siècle pour voir des idées idées qui, avant de s'emparer des masses, comme disait Marx, s'emparent d'abord de groupuscules, etc., et puis sont emportées dans le mouvement de l'histoire. Alors, c'est ça, c'est ce que j'ai fait à l'époque.
Oui, puis j'aurais trois ad hoc autour de ça. C'est intéressant parce que il y a un parallélisme intéressant avec l'évolution de l'école lui-même qui passe de l'intérêt pour la culture populaire à ces textes sur les limites de l'interprétation, etc., etc., enfin plus sur le discours comme tel. Donc là, vous avez fait comme un bout de chemin parallèle qui est assez intéressant.
Oui, bah, là aussi, bah, puisque c'est une époque où un des grands mots après structuralisme qui irradiait de tous ses feux, mais l'autre grand mot était sémiotique. Mm-hmm. Mes professeurs de Bruxelles s'intéressaient à la sémiologie d'Éric Buissens. S'il y avait quelque chose là, et je me suis mis aussi à travailler sur des questions de sémiotique, et notamment de sémiotique de la science-fiction. Oui, je suis sûr que la pensée de Eco était dans le paysage et me servait de modèle.
Et parallèlement, on reviendra à la science-fiction tantôt, mais parallèlement, ça me fait penser aussi à l'évolution de cet historien très intéressant, Gerald Moss, sur les fascismes, etc. Oui. Et notamment, ce que tu as fait sur le roman Revanchard, finalement, ça entre dans ce que lui, il appelle la brutalisation de la société européenne, avant la première, ce qui expliquerait finalement qu'on arrive à la
aussi,
première guerre.
On ne va pas ouvrir un grand débat, c'est une question de périodisation. Mais l'idée qu'il y a un avant-coup et que c'est la seule chose qui est intéressante dans les idéologies, c'est-à-dire elles sont toujours des phénomènes de longue durée depuis Saint-Simon, Fourier, Leroux, etc., les penseurs romantiques, jusqu'à la création de la première, de la deuxième internationale et jusqu'à la révolution bolchevique, il y a un siècle d'ombre portée. Et quelque chose que les psychanalystes appelleraient un passage à l'acte. Il y a un intérêt, effectivement, à voir sur la longue durée des phénomènes qui sont, en effet, très, très, très stables. L'idée que l'histoire a un sens, qui aurait été inintelligible à un homme du XVIIIe siècle, qui commence avec Condorcet, etc., ça, c'est des trucs qui mérite d'être suivi. Je devais avoir un tempérament comme ça, j'essayais de, comme on suit le furet dans la petite chanson, etc. Mais c'est vrai, la France dans laquelle je passais mes vacances quand j'étais enfant, il y avait encore la musique du village qui venait vous jouer, et on chantait « Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine, mais notre cœur, il est toujours français. » Donc, il y a des phénomènes de rémanence, des phénomènes de très longue durée. Moi, ça me paraît, oui, c'était ça mon truc. Mais on peut passer.
Non, tout à fait. Et puis après, il y avait aussi... il y avait l'aspect intéressant par rapport à la culture populaire belge. Pourtant, qui est un pays très riche, notamment du point de vue de la bande dessinée, dans cette culture. C'est vrai qu'on dirait que ça t'a moins motivé que l'étude de la culture populaire française.
Oui, c'est d'une certaine manière, je crois que si j'essayais de faire une phrase à effet, je crois que j'ai quitté la Belgique un peu comme... Enfin, je l'ai quitté sans vouloir me retourner en arrière. Je n'attendais rien. Je suis arrivé au Canada comme Robinson Crusoe dans son île. J'avais rien. J'avais quelque chose que j'avais envie de faire. Et j'avais cette chose merveilleuse, c'est-à-dire un poste et un chèque tous les mois. Donc voilà, je ne me suis pas souvent... J'ai dû laisser quelque part... le Marc Angenot qui serait resté en Belgique, qui aurait dû faire ce qu'on attendait de l'université à l'époque, qui était encore un phénomène assez, assez rigide, il est resté de toute évidence en France. C'est-à-dire ce que j'ai trouvé, c'est un truc pas sans majuscule, mais la liberté. Et c'est évidemment exceptionnel. Voilà.
Donc, est-ce que ça a à voir, par exemple, avec le fait qu'ici, on était dans un contexte de révolution tranquille et que peut-être qu'en Belgique, il n'y a pas eu de transition aussi claire.
Enfin... La Belgique était d'une certaine manière, comme tous les pays intéressants, un pays plutôt marginal et donc intéressant. Marginal parce qu'il est à la périphérie de la francophonie française. Et en effet, ce n'est pas par hasard que Annie Cordy, Adamo, Barbara, Tintin, Spirou, etc. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire que cette petite Belgique francophone de 4 ou 5 millions d'individus avait produit et engendré quelque chose dont l'équivalent de l'autre côté de Quiévrin, oui, Astérix, mais enfin bon, il y a là une prolifération. Et de la même manière, oui, j'ai eu de la chance de me trouver dans un pays où mon professeur de philosophie, Chaim Perelman, faisait de la rhétorique, ce que je n'aurais pas eu trouvé dans le reste de la francophonie. J'ai que les gens de Liège, mais futurs collègues créaient le groupe MU et faisaient de la recherche rhétorique, que un vieux professeur que j'ai pas bien connu, Éric Buissens, avait fait une théorie de la sémiologie de Saussure et va essayer de faire vivre quelque chose à partir des intuitions du cours de littérature, du cours de linguistique générale. Donc c'est sûr qu'on se trouve souvent dans un milieu porteur, je crois qu'il l'était, et donc c'est ça, j'ai fabriqué quelque chose auquel j'ai dû donner un nom, et comme le nom c'était discours c'était à personne, donc on pouvait s'en emparer, j'ai appelé ça théorie du discours social, très bien, j'ai fait de l'analyse du discours, ou si vous voulez, aujourd'hui on pourrait dire c'était de l'histoire des idées, mais avec une certaine sensibilité aux mots, aux figures, aux manières de dire, ça c'est évident, tout le monde le sait et le répète, si je dis séparatiste ou je dis souverainiste, je dis en principe la même chose, mais d'une autre manière je ne le dis pas du tout, donc c'était ça qui m'intéressait.
Et comment vient l'idée, parce qu'on voit précisément un peu de fil en aiguille, comment à partir de l'étude de ces textes qui ont eu un grand qui étaient populaires aussi dans la diffusion massive et qui donc était plus proche d'une sorte d'imaginaire social et donc qu'il façonnait puis reflétait, etc. Et comment naît l'idée de la folle entreprise de 1899? Est-ce que ça vient à partir des romans revanchards? Est-ce que ça vient de...
Non, honnêtement, je crois d'abord que il vous arrive une fois dans la vie ce qu'un chrétien appelle une grâce, c'est-à-dire un don gratuit de l'existence. Et je me suis mis un jour dans un bureau, dans un état d'écriture automatique, en disant, voilà, je vais étudier la totalité de ce qui s'est imprimé en langue française en 1889. L'année était choisie par une juste intuition. 1889, c'est l'année de la Tour Eiffel, le centenaire de la Révolution, et donc l'exposition universelle. C'est aussi un peu l'année en poésie de l'expansion du naturalisme et des symbolistes, et en politique, c'est l'année de cette chose que C.F. Charnel appelle le proto-fascisme, c'est-à-dire la tentative du général Boulanger, qui n'ira pas très loin, de fomenter un coup d'État à Paris. Il s'enfuit en avril, le 1er avril, il prend le train pour Bruxelles comme un vulgaire Puigdemont, et il se retrouve, ou il se suicide un an plus tard. Mais il se produit là des choses. Et donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui arriverait? Ça, c'est une vraie question. Je dirais, souvent, évidemment, il faut partir d'une question extrêmement simple. Mais évidemment, on ne peut pas y rester. La question de base, c'était, qu'est-ce qui pourrait arriver si j'essayais de lire ensemble tout ça? Les journaux, les livres, les plaquettes symbolistes, les grands romans naturalistes dont La bête humaine de Zola, la propagande boulangiste, la propagande marxiste, la petite presse, la pornographie, etc. Et donc j'ai pris tout ça à bras le corps. Et j'ai fait un gros livre, 1200 pages, et en plus, il fallait trouver un éditeur à Montréal, un livre qui s'appelle 1889, un état du discours social. J'ai essayé et je crois que je suis à peu près arrivé à montrer qu'il existe une circulation et une co-intelligibilité dans la totalité de ce qui se dit dans un moment de société, qui est un moment évidemment très stratifié. On est dans des sociétés où il existe des journaux pour les concierges, comme le Petit Parisien, des journaux pour les gens, pour les hommes d'affaires, comme le Matin, des journaux lus par les personnages de Proust, comme le Gaulois et le Figaro, etc. Donc on est dans des sociétés extrêmement stratifiées, mais où il y a des trucs qui circulent. Et à partir de là, je n'étais pas encore content, mais j'ai pris un cas à part, qui est qu'est-ce qu'on dit du sexe dans une société. J'ai appelé ça le cru et le faisandé, qui est un hommage à Lévi-Strauss, mais je suis en effet parti de la basse pornographie, qui du reste est un gros effort de chercheur, parce qu'il faut la trouver, l'Égaiement parisien, par exemple, qui était produit par un monsieur qui s'appelait Émile Blainville, et qui signait ses œuvres pornographiques sous le pseudonyme de Karl Marx. C'est un nom qu'il avait entendu, il ne savait pas ce que ça pouvait vouloir dire. Donc, j'avais pensé un jour publier les œuvres pornographiques de Karl Marx.
Ah, c'est excellent.
Ah, oui. Mais enfin, n'empêche. Et donc, par exemple.
C'est excellent, il faut absolument le faire.
Oui, c'est vrai. Alors, depuis le grand roman naturaliste où le sexe est sublimé d'une manière lugubre, etc., jusqu'à la pornographie. Qui est très souvent à l'époque une pornographie bébête scatologique avec caca, pipi, tout ça, etc. Enfin, c'est, voilà. En passant par les journaux, en passant par les premiers sexologues, dont le docteur Garnier, qui a été le grand producteur d'angoisse pour tous les adolescents, etc., de la société. Il est l'auteur d'un ouvrage de 500 pages. Garnier, c'est la famille de l'éditeur, donc il pouvait y aller. Et un ouvrage de 500 pages intitulé « L'onanisme seul et à deux avec tous ses dangers et ses conséquences », etc. Et parce que c'est tout à fait la psychiatrie du 19e siècle, c'est des études de cas. Monsieur X vient me consulter. Personne ne peut soupçonner mon secret abominable, je suis pédéraste, etc. Alors le docteur Garnier le traite avec des piqûres de morphine qui n'aboutissent évidemment à aucune espèce de résultat tangible, comme les vrais délirants d'ailleurs, dit-il. Donc c'est ça, je prends tout ça, et les journaux qui vous racontent. Ils vous racontent des histoires où le sexe apparaît, mais dans une société qui ne sait pas ce qu'il faut en faire. Voilà un petit fait divers de 1889. Une jeune femme vient de se marier. Elle est très heureuse, dit le journal. Elle monte dans un fiacre et se tire une balle dans la tête. Et là, on ne comprend pas, évidemment. Il n'y a pas d'explication. Voilà. C'est de prendre la totalité de la pornographie ou de ce qui raconte le sexe à la société. Et donc vous avez par exemple une pornographie antisémite, parce que les deux font contact, et il y a des tas de petits publicistes antisémites qui parviennent à raconter des histoires où les perversions sexuelles des Israélites sont mises en voilà.
Donc c'est ça. Et anticléricaux aussi, c'est souvent les mêmes d'ailleurs.
Alors bien entendu, il y avait à l'époque un journal quotidien, là aussi ça prouve que les sociétés fonctionnent à l'oubli et non pas à la mémoire, un journal quotidien, il s'appelait La Lanterne, qui était entièrement consacré à raconter des histoires de pédophilie cléricale, de frères des écoles chrétiennes. La Lanterne, qui était dirigée, disait la droite, par le juif Meyer, c'était un journaliste israélite, tous les jours, c'est un monstre en soutane, avec les détails, il vient salir les petits garçons, etc. Enfin, voilà. Très bien. Donc voilà.
En fait, c'est fascinant parce qu'il y a très intéressant du point de vue des histoires de culture populaire, puisque dans cette idée, il n'y a pas seulement le circuit traditionnellement considéré comme le circuit populaire, c'est-à-dire ces publications destinées à une grande diffusion, etc. Là, c'est l'idée, une idée moins étudiée, qui est l'idée qu'au-delà d'une niche spécifique qui serait destinée à des classes sociales dites populaires, qu'au-delà de ça, il y a une popularité des discours qui est à l'échelle de la totalité du corps social.
C'est ça. Mais c'est que quelque chose est arrivé, là aussi, dans cette période où il n'y a pas que Danton et Robespierre, mais alentour de la Révolution française, l'imprimé se met à engendrer... Bon, allez, avant, il y avait ce qu'on appelait la littérature de colportage, c'est-à-dire dans les petits villages de France, il y avait un colporteur qui vendait ce qu'on ne trouvait pas, du fil, des aiguilles, et il vendait aussi des petites brochures extrêmement misérables, avec des contes moraux écrits dans... Bon. Mais tout d'un coup apparaît, dans le développement de l'imprimerie, trois formes d'imprimés qui ne sont pas destinées aux gens normaux, c'est-à-dire cultivés, mâles et lettrés. Et c'est la littérature pour les dames, ça c'est une chose tout à fait nouvelle, tout le gothic novel, le roman noir anglais, c'est de la littérature pour dames et écrite par des dames, ce qui plonge les esprits sobres dans la consternation, parce que les dames passent leur temps à décrire des vampires, des fantômes, des trucs abominables. Donc Anne Radcliffe, Clara Reeves, tout le roman gothique anglais, imité en France massivement, crée une littérature pour dames, laquelle va se séparer en une littérature pour dames distinguée, et une littérature pour dames populaires dont Chaste et Flétri, Violet le soir de ses noces et Un lit sur ruisseau. Ensuite apparaît quelque chose de nouveau, de beaucoup mieux connu, une littérature pour la jeunesse. Et très vite aussi, elle se sépare, d'abord dans les deux sexes, il y a pour les petites filles, les petits garçons, les grandes filles, les grands garçons. Le modèle que nous connaissons tous au XIXe siècle, c'est la comtesse de Ségur pour les filles, Jules Verne pour les garçons. Les garçons s'intéressent à la bobine Grumkorff et à des questions scientifiques. Les filles doivent essayer d'aimer
le masochisme,
d'aimer les pauvres, les araignées, les bossus, etc. Très bien. Donc là, on a un nouveau modèle qui est... et puis, il y a une troisième littérature qu'on peut appeler vraiment populaire. Tout ceci, en effet, parce qu'il ne faut pas être angélique, tient en développement extraordinaire de l'imprimerie. Le journal, on ne s'en rend pas compte, les premiers journaux quotidiens ne se vendent que sur abonnement. On ne les achète pas dans la rue. C'est seulement vers 1840 que vont apparaître des journaux dans lesquels qu'on va vendre au numéro. Or, pour fidéliser la clientèle, il faut mettre en bas de la première page un roman feuilleton. Un roman feuilleton qui va faire que le journal est lu par les dames, d'abord, parce que les dames ne s'intéressent pas à la politique dans les Balkans, etc., mais elles sont censées s'intéresser au malheur de Fleur de Marie dans les Mystères de Paris. Donc il y a d'une part le journal. D'autre part, vers 1840, le journal ne sert pas à, quand il est lu, à occuper les épluchures de patates. Au contraire, le journal descend à l'office où le personnel domestique relit le journal, et puis il s'en va chez la concierge, et puis le journal suit une longue... Bon, donc c'est là où on voit apparaître au XIXe siècle trois sous-littératures, on peut les appeler sous-littératures parce que c'est leur statut réel, et elles se mélangent pour femmes, pour enfants, etc., et pour le populo. Un roman comme Les Mystères de Paris d'Eugène Sue est à la fois populaire par certains côtés, féminin parce qu'il est un roman le grand thème par exemple de 1840, c'est la prostituée vertueuse. Fleur de Marie est une prostituée éminemment vertueuse, elle a Elle a 17 ans, etc. Et donc tout le monde pleure des larmes de son corps. Et le chevalier blanc va venir la sauver. En fait, en réalité, c'est son père. Enfin, une histoire affreuse. Donc voilà. Donc ces romans dits populaires, tout ce que je veux dire, c'est qu'ils racontent des choses qui intéressaient déjà, en effet, quelques historiens curieux. Ils racontent des choses qui ne se racontent pas. Quelque chose d'autre va naître tout le long du XIXe siècle, c'est le café-concert. Et j'ai fait un livre là-dessus, la chanson populaire. Et une autre idée qui me viendra au passage, c'est que ces choses apparaissent avant la technique qui va les porter. C'est bien avant la radio, bien avant le gramophone, que apparaissent dans toutes les petites villes de garnison de France un café-concert où un imitateur local rechante les chansons qui ont du succès à Paris.
Oui, ça c'est fascinant. On parle beaucoup dans l'histoire de la culture populaire de l'impact de la technologie, mais ce qui est toujours très intéressant, c'est de voir que quand la technologie survient, c'est un peu ce que tu disais par rapport à l'idéologie, quand elle survient, c'est qu'elle existe déjà.
Un jour, si on s'amusait, on dirait il doit y avoir là quelque chose à trouver. Là, le fait que la célébrité devient liée au visage des gens, c'est, si vous voulez, l'estampe, la lithographie, c'est 30 ans avant la photo. À la photo, oui, avec la chromophotographie, etc., va développer ça extraordinairement. Donc on peut voir vraiment des processus où chaque fois l'idéologie précède. La célébrité, avant, c'est un nom et un mythe. C'est Roland et la chanson de Roland. Du reste, souvent des personnages inexistants. Tout d'un coup, avec non seulement la Révolution, avec Napoléon, Napoléon, l'image d'Épinal, fait que la tête des gens devient indispensable. Tout paysan, toute paysanne française vers 1810 a vu Napoléon dans des images d'Épinal.
D'où l'anecdote aussi du roi, non, qui est reconnu à la monnaie.
Alors ça, c'est une vieille anecdote, elle est tout à fait frappante. Le roi Louis XVI s'enfuit de Paris où il ne se sent plus en sécurité en 1791 et il part très maladroitement dans une il part et il est arrêté dans une petite ville de l'est de la France, Varennes, parce qu'il était au fond le seul Français dont on connaissait la tête, sa tête étant reproduite sur les assignats de 50 livres. Et le type, je crois qu'il a menti, il avait travaillé à Versailles, il avait vu le roi, mais enfin, il prétend qu'il, comparant la tête du monsieur comparant la tête de cet homme à l'assignat, il s'est dit, tiens, c'est le roi.
Bon. Et c'est exclusif, mais après ça se démocratise.
Alors ça va se démocratiser, la lithographie va permettre de faire que les gens de la Révolution ont vu la tête, particulièrement les têtes coupées, ils ont vu la tête de Robespierre, de Danton, etc. Mais la plupart des humains n'ont encore jamais vu la tête des gens dont on parle. À part les députés de la Convention, qui a vu Robespierre? 300 personnes. Donc il est évident que là, l'estampe va permettre, elle est vendue quelques sous, va permettre de vulgariser une certaine connaissance de la tête des gens. Et en effet, est-ce qu'on a une question pour étudiants, est-ce qu'on a une photo d'un roi de France? Et la réponse est oui, Louis-Philippe, on a sa photo, il a l'air d'un gros bourgeois, mais enfin voilà, on a sa photo, c'est-à-dire tout d'un coup, quelque chose a changé. Voilà. Bon, mais continuons.
Oui, non, ben, tout à fait. Alors ce qui est fascinant, c'est comment, et malheureusement, dans le monde anglo-saxon, je pense qu'il n'y a pas eu une réception au sein des études sur la culture populaire, qui pourtant sont bien plus florissantes que dans le monde francophone. Mais curieusement, cette idée extrêmement intéressante de discours social, elle n'est pas aussi présente qu'elle pourrait l'être. Parce qu'au fond, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà donc des circuits de distribution d'un imaginaire qu'on dirait populaire à cause de ces conditions de production, il y a une culture commune qui qui circule partout, dans toutes les strates, et qui est un autre type de culture, une autre dimension de popularité de culture. C'est comme la culture, finalement, de la totalité de ce qui se dit en général, oui. À un moment donné.
C'est évident que dans cette époque que vous me renvoyez constamment avec sadisme à ma jeunesse, dans cette jeunesse, il y avait le Journal of Popular Culture, il y avait l'école de Bowling Green aux États-Unis, l'école de Birmingham en Angleterre. C'est des gens que j'ai bien connus, mais effectivement, leur formation, qui était très britannique, ne les portait pas à regarder les textes. Et d'autre part, ils avaient, ce qui est honorable, mais qui fait toujours une distorsion, un certain esprit militant. Enfin, en quelque sorte, d'une manière naïve et pour caricaturer, enfin, la littérature populaire, c'était bien, la littérature bourgeoise, c'était pas bien, etc. Bon, mais surtout, oui, c'est cette idée de discours social. Là aussi, il y a plein de gens, parallèlement à moi, qui se sont mis à dire, mais c'est quoi un journal ? Qu'est-ce qu'on écrit dans les journaux ? Il y a combien de journaux à Paris ? Il y a 140 quotidiens. 140 quotidiens, beaucoup de gens, ils coûtent un ou deux sous, donc les gens, ils sont quatre pages, donc beaucoup de gens qui sont intéressés à la politique en achètent cinq ou six dans la journée. Il y a 900 quotidiens en France, on est dans le moment où l'imprimé est devenu, et l'imprimé périodique surtout, est devenu la chose la plus intéressante, et il y avait très peu de recherches, sauf tout à fait érudites de bibliographie, sur les journaux. Mais les journaux, c'est inséparable du roman feuilleton. Le roman feuilleton, ça paraît en journal avant de paraître en fascicule et à la fin, plus tard, de paraître en volume. Et donc, tous ces gens qui, différemment, qui étaient les uns des littéraires, d'autres des historiens, des sociologues, se sont mis à regarder sous différents aspects la chose imprimée. Alors un jour, au bout du compte, on a convergé avec leurs questions d'historiens du journalisme, d'historiens de théoriciens du discours social, d'historiens des idéologies politiques, etc. Parce que ce qui a caractérise encore un peu le monde universitaire, c'est qu'il est cloisonné. Il est cloisonné avec des gens, j'ai encore quelques collègues que je ne citerai pas, qui ne s'intéressent qu'à ce domaine qui s'appelle la littérature, et c'est très bien, mais cette chose-là n'a de sens que parce qu'elle dit des trucs qui se disent ailleurs.
Oui, et c'est ça qui est tout à fait fascinant, parce que c'est ce que, par exemple, le New Historicism va essayer de faire, mais d'une façon qui, finalement, historiquement, est restée un petit peu cantonnée. Ça a été beaucoup associé aux gens qui travaillaient sur la Renaissance, puis qui, eux, essayaient de faire des liens entre le texte littéraire comme tel et des textes qui n'avaient plus rien à voir, des textes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que tu as travaillé dans le 19e siècle, ça reste assez unique par rapport à ces recherches.
Oui. Donc, c'est-à-dire, bon, je me suis, suivant les époques et les années, j'ai travaillé sur le 19e, j'ai travaillé également sur le 20e siècle. C'est un peu comme si je ne pouvais pas suffire à ma propre besogne, de sorte que j'ai fait des travaux sur le fascisme, sur l'antisémitisme. Mais enfin, c'était là aussi, c'était des questions simples. Il y avait beaucoup d'historiens de l'antisémitisme, mais ils n'observaient que les professionnels de la chose, c'est-à-dire les trois ou quatre qui avaient quasiment consacré leur vie à ça, comme Édouard Drumont en France. Mais en fait, la seule vraie question, si on veut regarder de près, c'est de se demander qu'est-ce qu'on dit des Juifs dans les journaux, dans le roman populaire, dans la chanson de café-concert, etc. C'est-à-dire de voir une dissémination, sous une forme évidemment moins virulente, mais une dissémination dénoncée hostile ou méfiant à l'égard des Juifs, au théâtre aussi. Un des auteurs de mélodrames de la fin du 19e siècle, Adolphe Denry, qui était juif, raconte dans une conférence à l'Alliance israélite universelle qu'il n'a jamais pu mettre un juif en scène parce que montrer un juif sympathique aurait été tellement contraire aux conventions scéniques, donc il a préféré renoncer. Bon, ça, ça apprend des choses sur, sur un état de société.
Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est un des versants, puisque de 1899, il y a plusieurs, ça essaime à l'intérieur de l'œuvre, plusieurs autres livres et préoccupations. Et il y a cet aspect très intéressant de l'obsession antisémite à la naissance du complotisme. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est ton texte « Un juif trahira oui. ce que l'on dit des juifs », puisque c'est, là encore, avant l'affaire Dreyfus, finalement, oui. et que donc, voilà. l'affaire Dreyfus, c'est aussi une sorte de passage à l'acte oui. De quelque oui. chose qui était...
Tu as très bien vu ça. Effectivement, c'est un exemple type d'un avant-coup qui est précédé de plusieurs années, dans quelques cas même de 20 ou 30 ans, de quelque chose qui va éclater avec l'affaire Dreyfus. Mais, par exemple... L'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui la vision conspiratoire, qui marche tellement bien sur l'Internet. La vision conspiratoire, on peut vraiment en dater la naissance. C'est les premiers écrits qui, sous la Révolution française, visent, et c'est évidemment des écrivains contre-révolutionnaires, visent à démontrer que la Révolution a été entièrement ourdie et préparée par une conspiration maçonnique et illuministe. Donc ça, c'est là où on voit la conspiration naître. Tout le long du XIXe siècle, la droite francophone va multiplier, avec l'appui du Vatican, les travaux qui montrent que la franc-maçonnerie est la cause de tous les malheurs de la France, et... vers les années 1880, on voit converger cette hostilité aux sociétés secrètes condamnées par Rome avec les juifs. La franc-maçonnerie est une organisation juive, et donc on va, bien sûr, on va voir dans ce classique de l'antisémitisme les protocoles des sages de Sion, qui justement essayent d'indiquer que les sages de Sion se sont réunis quelque part pour préparer la chute du monde chrétien au moyen d'une vaste conspiration. Donc, si on prend cet objet, qui est un vrai objet idéologique, culturel, littéraire, mythique, imaginaire, qui est la conspiration qui vise à détruire une société, là, vous pouvez, on peut la suivre, on peut la voir se modifier, se transformer, etc., et en effet culminer avec le conspirationnisme, dont Adolf Hitler sera un des représentants éminents, et voir en effet comment le conspirationnisme est revenu à fond. Aujourd'hui, il n'y a pas deux jours où, en lisant les journaux, vous n'allez découvrir que les malheurs de... les accusations portées contre Tariq Ramadan par des femmes qui disent qu'elles ont été violées par lui sont évidemment dans les faubourgs de Paris le résultat d'une vaste conspiration anti-musulmane.
Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est très intéressant le décalage chronologique, de prendre ça avant que ça devienne viral et que oui. ça devienne, et qu'il y ait précisément, parce qu'en général on fait beaucoup remonter à l'affaire Dreyfus en France oui. l'antisémite, c'est-à-dire on dit beaucoup oui. Céline qui naît précisément l'année de l'affaire Dreyfus et qui finalement va finir par écrire ses pamphlets totalement délirants oui. De l'antisémitisme entendu chez son père en lisant Drummond, etc. Mais là ce qui est intéressant, c'est donc le décalage de prendre ça 15-20 ans avant oui. et de oui. se dire à un moment où ce n'est pas, on dirait maintenant, trending topic, c'est-à-dire à un moment où ce n'est pas quelque chose qui semble aller de l'avant, les gens qui travaillent sur ces périodes-là ne semblent pas y prêter autant attention. Et là, du coup, de voir, et là aussi c'est un autre angle intéressant pour comprendre la culture populaire dans un sens beaucoup plus élargi, c'est de se rendre compte que c'est déjà là.
Oui, c'est ça. Oui, ça, je pense que c'est passionnant, et généralement, ce qui permettrait à l'historien de dire « je vous l'avais bien dit », et en effet l'historien est souvent capable, après coup, peut-être même avant coup, de voir que tous les grands phénomènes de société sont des asymptotes qui commencent modestement ou obscurément en tout cas, et puis qui se développent, et quand elles sont vraiment arrivées au grand jour, Il est un peu tard, oui, l'affaire Dreyfus s'est précédée, c'est le livre auquel tu as fait allusion, « Un juif trahira », par justement cette idée que, quelque part, peut-être à l'état-major, un juif, étant donné la propension depuis Judas de trahir des juifs, un juif va trahir la France en livrant des secrets à l'état-major allemand. Et c'est une idée qui revenait. Et puis, un jour, finalement, comme il arrive toujours, les mythes se réalisent, non pas dans la réalité, mais dans ce que les obsédés idéologiques considèrent être la réalité.
Puisqu'on peut dire que l'accusation faite à Dreyfus vient de cet état d'esprit directement.
Oui. L'accusation vient du fait que, j'ai fait aussi des recherches là-dessus, bon, je ne suis pas le seul, hein, tout le 19e siècle est rempli d'histoires moins connues de juifs qui trahissent. Elles sont toutes fallacieuses et toutes malveillantes, mais elles sont très nombreuses, et elles sont très nombreuses dans une société comme la France, où, d'abord, il faut bien le dire, les juifs sont très peu nombreux. Ils représentent 0,02% de la population. On le sait parce que depuis Napoléon, les régimes religieux, les israélites, les protestants et les catholiques sont soumis à des statistiques. Donc il y a 80 000 juifs en France. La plupart à Paris, quelques-uns dans le Midi, et les autres sont en Alsace-Lorraine, qui a été annexée par l'Allemagne. La famille Dreyfus a quitté l'Alsace parce que, dans son grand patriotisme français, et considérant que c'était la France qui avait émancipé les Juifs avec la Révolution, ils sont arrivés à Paris, où Dreyfus, n'écoutant que son patriotisme, décide de devenir militaire. Bon. Tout ceci paraît assez logique, mais on est dans un monde où, ce qui est toujours curieux dans l'idéologie, c'est qu'il y a plein de journaux antisémites. La Libre Parole est le plus connu. Ces journaux racontent des histoires sur les Juifs à des Français de petites villes de province qui n'en ont jamais vu un et n'en verront jamais un. Ils ont entendu parler du nom de Sarah Bernhardt, qui est la grande comédienne de l'époque. Et évidemment, elle joue le rôle de Jeanne d'Arc, ce qui paraît évidemment un peu inopportun, etc. Et ils ont pas du tout entendu parler de Catulle Mendès, poète symboliste, ou de Gustave Kahn, autre poète symboliste. Donc tous ces gens n'ont jamais vu de juifs, mais ils savent qu'il y a la banque Rothschild qui veut trahir la France en vendant, etc. Voilà. Autrement dit, on est en effet avec l'antisémitisme dans le mythe pur et simple, c'est-à-dire il n'y a rien derrière.
C'est ce qu'on arrive après chez Céline, c'est saisissant à quel point ce qu'il appelle juif, c'est tout et n'importe quoi, puisqu'à la fin, il dénonce comme juif absolument tout le monde, et à la limite, on peut même presque inverser l'argument, puis de se dire que finalement, ça ne veut plus rien dire.
Un chercheur finit par trouver les phrases qu'il attendait. C'est toujours un grand plaisir. Auguste Chirac fait une phrase, je vais la reproduire, elle n'est pas littéralement, dit « La plupart des Israélites sont juifs, mais 17% des chrétiens sont aussi juifs, etc., et 42% des protestants. » Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et en effet, enfin, il ne le sait pas lui-même, mais c'est des gens, il faut bien le rappeler, les imbéciles sont très dangereux dans une société.
Oui, c'est l'imaginaire pur, c'est-à-dire c'est la construction d'une figure qui finalement, elle se nourrit du feuilleton parce qu'elle se nourrit de l'esprit malveillant, omnipuissant, etc. Un peu ce qu'avait fait Su avec les jésuites dans Le Juif errant, etc. Et donc on voit peu à peu se construire cette idée du mastermind, du super vilain qui a tout créé, etc.
Les jésuites avaient servi à gauche. Oui. Ce que les juifs avaient représenté à droite sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire les conspirateurs fourbes et sournois qui mettent la société en l'air.
Et là aussi, hein, quelque chose qui apparaît qui est très, très curieux, puis inattendu, tout à coup, autour de 1889, il y a ce projet, cette œuvre tout à fait singulière, l'œuvre poétique du savon de Congo, qui, là, donc, s'intéresse à quelque chose de tout à fait particulier, qui est la publicité en vers, oui, sous forme de poème, oui, pour ce savon du Congo.
Voilà. Alors, là aussi, le point de méthode, c'est de se dire que c'est au fond l'attitude du psychanalyste, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de tout petites choses. Et de temps en temps, une chose mineure peut dire quelque chose. Et en effet, vous allez remarquer que dans la presse française jusqu'à peu près 1914, paraît tous les jours un poème différent, à la gloire d'un savon qui était très, très célèbre. Et il faut bien le rappeler, recommençons le point du savon. Les Français, comme le dit Zazie dans le métro, les Français ne se lavent pas au XIXe siècle. Les messieurs se lavent très peu, ils portent une redingote qui sent le tabac froid, et ça s'arrête là. Les dames ne se lavent pas énormément. Les seuls qui se lavent, c'est les cocottes. Et donc, tout mari quitte une femme qui a des odeurs sui generis et va chez une cocotte qu'il entretient et qui sort de son bain, savonné. Donc, tout le grand problème vers 1880, c'est d'essayer de convaincre les Français de se laver.
D'ailleurs, la douche française en espagnol, c'est tout simplement ne pas se doucher et se mettre du parfum dessus.
Ah, voilà, c'est vrai. Il y a des explications à ça. Et la fin du Moyen-Âge, avec les innombrables épidémies de peste, avait expliqué que les gens se lavaient avec beaucoup de méfiance, parce que le Moyen-Âge était propre, il y avait des saunas, enfin, voilà. Donc, vers 1880, Monsieur Vessier crée une usine à Roubaix, dans le nord de la France, où il va essayer de vendre son savon. Et la publicité, à l'époque, était généralement extrêmement emmerdante. Elle apparaît en quatrième page des journaux, avec de très petits caractères, et puis avec ce qu'on appelait des attestations. Madame la comtesse de X a utilisé le savon, etc. Bon. Vessier a une très bonne idée, qui est d'offrir un petit paquet de son meilleur produit à quiconque va lui envoyer un quatrain pour mettre son savon en valeur. Alors, je suis sûr que Mallarmé et Verlaine ont envoyé, évidemment, un jour leur propre tout petit quatrain. Les messieurs utilisaient le savon sous la forme de savon à barbe. Mais le savon à barbe posait un autre problème qui est tout à fait un trait d'époque. Le savon à barbe ne pouvait pas être parfumé. Car un savon parfumé à la fleur dénotait le pédéraste. Et donc, il fallait que le savon à barbe soit extrêmement neutre. Les savons qui existaient dans les savons chics, le savon de Vessier est populaire, les savons chics étaient soit des savons à partir d'odeurs animales, mais c'était trop sensuel, puis les savons pour jeunes filles qui pouvaient sentir la fleur. Très bien. Donc Vessier fait son savon du Congo, et tous les jours de 1880, pendant 30 ans, il reçoit des quatrains, ils sont souvent extrêmement bien faits, il reçoit des quatrains qu'il publie dans tous les journaux de Paris. Et j'ai été lire les quatrains, et finalement, de ces quatrains ressort une image totale de la France. Tout y est, la Troisième République, le boulangisme, le marxisme, les jeunes filles, la transformation de la société, etc. Toutes les transformations sociales y sont. Y compris, du reste, il faut bien rappeler que le mot de savon du Congo pose la simple question: pourquoi du Congo ? Or, il est évident, et il faut le répéter, bien que ce soit politiquement très incorrect, c'est une illustration de la vieille phrase « à blanchir un nègre, on perd son savon ». Le savon du Congo est tellement efficace qu'il permet de blanchir même les Congolais. Et donc, ça marchait très bien. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de prendre un tout petit phénomène social, mais étalé sur une longue durée, et de dire, voilà, à travers ça, vous allez, c'est un prisme qui va vous révéler quelque chose sur la société.
C'est extraordinaire. C'est très intéressant aussi parce que tu citais Mallarmé qui écrivait pour les journaux de mode féminin, etc. Oui. Donc ces univers-là n'étaient pas aussi étanches que par la suite on a pu les imaginer. Et on sait aussi à quel point Desnos a dû écrire de la publicité, etc., etc. Et comment finalement il y a quelque chose d'intéressant qui émerge dans la culture populaire publicitaire. Et en tout cas, c'était une idée absolument géniale. Non, mais si, parce que ce qui est intéressant, c'est que je continue à penser que c'est extrêmement, c'est audacieux. Le projet de 1899, peut-être même 1889, oui, excuse-moi. Le c'est peut-être aussi le fait que c'est tellement ambitieux et complexe d'avoir cette vision panoramique qui a fait que finalement c'est resté unique parce que à ce que je sais, il y avait le livre 1913 qui était vraiment sur l'année juste avant la guerre avec toutes les transformations des avant-gardes et tout, mais c'était pas le même état d'esprit, c'était beaucoup plus dans les productions artistiques, qu'est-ce qui était finalement nouveau, etc.
Écoutez, s'il s'agit un peu de stimuler les auditeurs, c'est bête à dire, mais l'avantage de faire une coupe synchronique, c'est justement d'essayer de ne pas voir les choses uniquement dans la durée, c'est-à-dire d'une évolution. Je suis d'accord, on peut vraiment suivre, en effet, pas à pas une évolution ou essayer de synthétiser un phénomène qui porte sur plusieurs générations. Mais qu'est-ce que la coexistence ? En principe, nous avons l'idée que la coexistence, c'est que les médecins font de la médecine, les naturalistes font du roman, les journalistes décrivent l'actualité, chacun fait son petit boulot. Or, justement, c'est la grande idée, je pense, c'était de montrer que non, il existe cette chose qu'on appelle intuitivement la culture, ou quand on est cultivé, le Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit d'une époque. L'esprit d'une époque, c'est des circulations, une intertextualité, une interdiscursivité, et c'est en effet ce que j'avais essayé de voir.
Oui, puis je pense qu'il y avait eu... Enfin, c'est curieux, à un moment donné, en étant étudiant, j'avais eu l'idée par rapport à la télévision de se dire... Est-ce que finalement tout ne fait pas dans ce chaos total de la télé est-ce qu'il n'y a pas des renvois entre le téléjournal, puis les feuilletons, etc. Oui. Et j'ai su par la suite, il me semble qu'il y a quelqu'un qui avait travaillé sur une journée à la télévision, et qui avait essayé de tout restituer d'une journée. Bon, c'est sûrement c'est moins ambitieux que l'année complète.
Mais je trouve que c'est une sorte de fraternité à travers le temps. C'est évident qu'il y a certainement des choses à voir. Et aujourd'hui, nous le voyons très bien. Le jour où on écrira, ça ne sera pas nous, l'histoire de Trump et des États-Unis, le rapport entre la fiction, la réalité, ce qui était déjà dit dans la politique fiction, qui a l'air de se retrouver dans le réel avant de se re-retrouver dans la fiction, c'est de ces phénomènes-là. J'avais justement fait un travail, c'est le moment de l'évoquer, il m'a amusé jadis sur Tintin, et particulièrement sur l'historicité dans L'oreille cassée. L'oreille cassée est composée à la fois de toute une série d'éléments que Hergé a repris dans l'actualité de son époque, à commencer par la guerre du Chaco entre la Bolivie et le Paraguay, mais aussi de tas d'histoires qui passent de la fiction à la réalité. Je vous raconte une petite histoire où il y a des bouts de vrai et des bouts de fictif. En 1889, justement, mais ça c'est pas encore Tintin, l'héritier de la monarchie impériale et royale d'Autriche-Hongrie, le prince Rodolphe, se suicide avec sa maîtresse de 15 ans dans un rendez-vous de chasse à Meyerlinck. Bon, Meyerlinck signale quelque chose. Il s'agit du phénomène le plus sidérant, je veux dire, les personnages les plus importants d'Europe. C'est un homme dans la quarantaine, il a une maîtresse mineure, c'est déjà pas une très bonne idée. Il la flingue et se suicide. Et son cousin, l'un des Habsbourg, décide qu'il ne peut plus supporter Vienne et ses magouilles, et l'histoire est probablement à peu près vraie. Il part en Amérique du Sud et se retrouve autour du côté d'Ushuaia en Argentine, où je pense, du moins les historiens pensent, qu'il feint un naufrage pour pouvoir reprendre sa vie sous un nom d'emprunt et devenir un latifondier du côté du Cerro Fitzjoy dans le sud de l'Argentine. Bon, ça c'était une histoire romanesque, d'accord ? Elle va inspirer justement des tas de romans. Alors, dans ces romans, l'un d'entre eux qu'on connaît un peu est Le naufragé du Jonathan de Jules Verne, c'est son dernier roman. C'est un prince européen qui vit solitaire au Cap Horn. Hein, et donc, tout, autrement dit, ce qu'on peut voir très bien dans Tintin, vous vous rappelez l'oreille cassée, mm-hmm. Il y a un vieil anglais qui est en train d'apprendre aux Indiens Bimbaros à jouer du golf. Mm-hmm. Or, ceci est d'une certaine manière une histoire vraie, composée de légendes. C'est un explorateur qui a disparu dans l'Amazonie. Beaucoup de gens ont pensé, à mon avis, on pense qu'il a été en fait tué
Fawcett, par des indigènes. Percy Fawcett.
Mais beaucoup ont pensé qu'il était gone native, qu'il était devenu indigène, qu'il avait préféré quitter la civilisation et ils apprenaient le golf au Bibaros. Très bien. Là-dessus, Tintin reprend l'histoire en fait un épisode de l'oreille cassée et ainsi de suite indéfiniment. Si on se met à regarder les continuités, c'est une sorte d'escalier de pierre et de nuages. Oui, pierre, nuages, bien. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça permet de voir à la fois le monde et la fiction autrement. Et ça démontre que c'est pas ce qui vaut pour Hergé et qui vaudrait pour Zola ou pour Proust, c'est la fiction, je ne peux pas la séparer. Elle est quelque chose qui fonctionne ironiquement par rapport à des trucs que nous tenons pour vrais, ou à peu près vrais, ou plus ou moins mythiques, ou complètement délirants, etc.
Bon, oui, tout à fait.
Trump sera un jour, évidemment, on ne sait pas s'il est un personnage réel, ou s'il n'a pas été inventé dans un roman de politique fiction odieux. Tous les Américains, son éditeur, a réédité le roman de Philip Roth. Philip Roth a fait un roman, la grippe m'empêche de retrouver son titre.
The Plot Against America.
Oui, The Plot Against America. Dans The Plot Against America, Lindbergh est nommé président des États-Unis, c'est pas lui qu'on attendait. Il conclut avec Hitler un pacte de non-agression et on persécute les juifs dont le personnage fictif qui s'appelle Philip Roth et qui vit dans New Jersey. Donc on a ici quelque chose de fascinant et aujourd'hui les rééditions innombrables de Plot of Against America démontrent que la réalité dépasse la fiction. Mais tout ce que racontera ce que raconteront nos descendants sur l'époque actuelle, c'est que la réalité dépasse la fiction.
Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, quand tu évoquais tout à l'heure, dans l'effet d'annonce, de préparation, de préfiguration de l'imaginaire du juif qui trahit la France et qui finalement se concrétise dans Dreyfus, ce qui est curieux, c'est à la fois, il y a un documentaire assez célèbre sur le 11 septembre et tous les films qui préfiguraient voilà, ce type voilà, d'attentat, oui. etc. Ah, oui. Et puis d'un autre côté, finalement avec Trump, c'est cette idée qu'il y avait un état du discours social qui n'arrivait pas à se manifester dans les journaux officiels, mais qui était très vivant sur l'Internet. Et là, on n'a pas détecté que finalement, il y avait ces sites avec des millions d'adhérents qui, eux, étaient déjà dans un autre discours complètement différent.
Voilà, ça nous obligerait à faire toute une réflexion, mais je vais vous raconter une histoire. Elle vise à démontrer ceci. Vise à démontrer que ce que nous appelons roman, ce qu'on a appelé autrefois roman du temps de Balzac, ou plus tard du temps de Proust, ou Houellebecq aujourd'hui, ce que nous appelons roman n'a de sens que parce qu'il se produit des trucs dans le réel qui, pour une époque donnée, sont romanesque. Alors je raconte l'histoire, et celle-ci est vraie. Vers 1830, dans un ghetto de Odessa, dans l'Empire russe, une jeune fille misérable décide de quitter, elle s'appelle Thérèse Lachmann, elle décide de quitter le coin et arrive à pied à Paris. Elle a 14 ans et elle fait ce qui est la seule chose raisonnable pour l'époque, pour une jeune fille seule à Paris, elle entre dans une maison publique où elle rencontre le marquis de Païva qui en a 81. Le marquis de Païva décide d'emmerder sa famille en épousant la jeune prostituée. Et donc, la misérable devient marquise de Païva. L'histoire est vraie. Mais c'est du Balzac. C'est Esther Gobseck. C'est tout ce qu'on veut. Et elle va vivre très, très, très longtemps. Elle va inspirer, bien sûr, les antisémites, parce que ça ne doit pas se passer dans ces sociétés stable et immuable. La marquise de Païva est un roman en elle-même, peut-être pas dans le réel, il faudrait voir si elle était très heureuse, mais enfin, quand même.
Hein. Oui, je trouve tout à fait fascinant cette idée. Tu l'as exprimée par rapport au discours social, tu l'as théorisé, cette idée que qu'est-ce qui est argumentable à une époque, mais ça s'applique à la fiction, dans finalement... dans une catégorie assez aristotélicienne, qui est celle du vraisemblable, qui finalement est qu'est-ce qu'on considère à un moment qui va être vraisemblable dans un roman.
Encore un immense sujet, on aborde chaque fois des continents. Oui, qu'est-ce qui est vraisemblable à un moment donné, et qu'est-ce qui fait que nous avons beaucoup de peine à nous représenter le vraisemblable d'une époque. Les tragédies classiques sont vraisemblables du temps de Corneille et de Racine, et elles informent la manière dont les gens interprètent la société. Tous les gens de la Révolution française, de la Convention, sont bourrés de culture classique et passent leur temps à interpréter leur monde en disant Catilina, Sylla, etc. Donc les schémas de crédibilité sont extrêmement variables dans une société ou une autre, et c'est ça qui nous fait souvent être très arrogants vis-à-vis du passé. C'est vrai qu'un militant ouvrier qui pensait que l'Union soviétique de Staline était le paradis sur Terre pour la classe ouvrière, nous paraît quelqu'un qui manquait d'esprit critique et qu'il aurait dû aller lire le Figaro où il aurait appris des choses sur les camps de travail. Mais certainement, il ne l'aurait pas fait parce que c'était la presse bourgeoise. Donc, nous interprétons, je dis nous, nous si nous ne sommes pas historiens, et même si nous le sommes, nous avons beaucoup de peine à comprendre ce qui donnait du sens à la vie de gens qui, sortis de la résistance vers 1950, croyaient tout ce que disait le PCF, etc. Bon, voilà. Et donc, je crois en effet qu'il faut... Mais je dirais que l'historien a un devoir. L'historien a un devoir vis-à-vis des morts, justement d'abord parce qu'ils sont morts, ils ne sont plus là pour se défendre, et d'autre part parce que d'une certaine manière, seul le présent est réel. Ce qui se passait dans la tête de l'abbé Grou appartient à un monde tellement lointain de moi que j'ai beaucoup de peine à... Et je dirais que j'ai un devoir, non pas de l'approuver, etc., mais j'ai un devoir de dire, mais quelle était sa vision du monde? Comment se donnait-il un sens à son monde? C'est un devoir, et beaucoup de grands historiens, comme Carlo Ginzburg, sont des gens qui ont vu que travailler dans le passé, c'est rendre justice à des gens qui n'étaient ni pires ni meilleurs que nous et qui se trouvaient dans un monde très peu déchiffrable.
Oui, puis je trouve que ça ouvre une porte vraiment intéressante à l'histoire, non plus du roman, mais de la catégorie même du romanesque, de l'idée que c'est finalement historiquement variable, cette idée de qu'est-ce qui est romanesque et qu'est-ce qui peut entrer dans le pacte de fiction. Et là aussi, je pense que ça ouvre des perspectives extrêmement, extrêmement intéressantes. Mais effectivement, on va peut-être donc tout simplement conclure ici. Et dans un deuxième mouvement, ce qui serait intéressant, c'est de nous emmener à l'état du discours social présent. On vient de publier aujourd'hui sur Pop en Stock ton article sur les complots, les théories du complot et en quoi Internet les stimule, les diffuse, etc., les génère finalement aussi. Mais là aussi, quelque chose qui existait d'avant, comme on vient de voir. Donc peut-être que dans un deuxième temps, on prendra le deuxième partie un peu de ta carrière à partir des études qui t'inaugurent sur le pamphlet, etc., etc.
Très bien. Allons-y. À la prochaine.
Mais c'est très bien. C'est très gentil.